Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, qui ouvre un espace de discussion tous les soirs avec des artistes. Ça dure une heure et ce soir c'est avec Volmir Cordero.
Un tango, danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler,
ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Volmir Cordero.
C'est un jeu qu'il faut commencer en ivresse, un jeu qui met au loin la police du regard. Sur le grand trottoir de votre dernière création, Volmir Cordero, une communauté hétéroclite d'êtres tous vêtus de collants avancent en couleur. Ils essaient des choses, ils sont agis par des choses, des mouvements, des couvre-chefs qui les transforment, des chansons, des slogans, des histoires, des désirs, des baisers qui passent en eux et les changent. L'origine de ce qui les met en mouvement reste un mystère, mais il est certain qu'ils et elles traversent quelque chose de puissant. Ils prennent le passage, ce passage, comme endroit pour habiter. Alors c'est instable, oui, mais souvent c'est joyeux. Vous écrivez d'ailleurs que Trottoir, cette pièce pour 6 interprètes, investit la joie comme une forme d'épanouissement personnel et collectif, une force qui éloigne de l'impuissance et de l'exclusion. Et par les temps qui courent, c'est généreux. Bonsoir à vous, Volmir Cordero.
Bonsoir.
Lorsque vous commenciez à vous mettre au travail pour cette pièce-là, vous finissiez la rédaction de votre livre, Export Corpo, à peu près ça, hein, le
oui.
Timing.
Ouais.
Et c'est un livre qui est librement inspiré de votre travail de recherche, d'artiste, chercheur, de votre thèse. Et il est paru ce livre aux éditions du Centre National de la Danse. Je veux juste dire que c'est dans cet endroit, au Centre National, que j'ai vu Trottoir. En décembre, on écoute un extrait sonore de la pièce.
Gauche, droite, est, ouest, gauche, droite, est, ouest. Qui sont-ils? Que font-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Venus de la brousse à la ville, ces jeunes hommes, ces femmes sont à la recherche d'une cérémonie joyeuse et hallucinatoire. Non sans conflit, une transe de marche, une tranche de Mars, une transe de marche, une tranche de Mars. On dirait des collègues, des copains, une famille. Ils n'ont pas inventé la poudre, ils n'ont dompté la vapeur. Ils ont le cœur chaud et parfois ils ont froid. Ils connaissent les voyages, tous les jours, tous les soirs, procurent une sensation de dimanche, une sorte de grand repos festif. Ils nagent, ils travaillent, ils se baladent avec leur patron, ils nettoient les vitres, ils poussent des camions, ils prennent des substances heureuses, ils accouchent, ils se lavent, ils prennent des trucs, ils troquent, ils vendent des trucs, ils troquent. Ils volent des trucs, ils troquent, ils s'organisent leur milieu. Ils s'organisent leur milieu. Ils s'organisent leur milieu. Rien ici n'est laissé au hasard, ni interdit. On peut tout voir et surtout y penser. C'est un jeu où il faut démarrer en ivresse et mettre au loin la police des regards. Mettre au loin la police des regards. Plongeons dans la chair ardente de ces gens. 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 Plongeons dans la chair ardente de ces gens.
Alors je voulais qu'on commence entre autres par cette voix de Anne Sanogo, mais aussi par la musique Volmir Cordero, par cette espèce de grande masse sonore qui arrive parfois dans Trottoir, pas tout le temps, mais parfois. Je voulais qu'on commence par ça parce qu'elle pose la question « qui sont-ils ?» et qu'elle avance des pistes, mais à mon sens, c'est pas toujours des bonnes pistes. Il peut y avoir des fausses pistes dans ce qu'elle dit. Et je voulais vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut lui faire confiance pour nous présenter les gens qui sont là ?
Je pense que oui. Je pense que quand elle pose la question « qui sont-ils ?», elle veut surtout profiter du fait qu'on est en train de commencer à enlever les cagoules. À savoir que pendant les premières 30 minutes de la pièce, on est complètement masqué, donc le corps caché par ses colons colorés. Et pendant tout ce temps-là, l'idée, c'est de produire cette désidentification avec des identités qui peuvent être facilement très figées. Et donc profiter de l'aspect théâtral de la cagoule pour produire un affaiblissement de cette vérité du visage ou de cette force individualisante du visage. Donc pour moi, quand on a écrit ces textes où on posait la question d'où viennent-ils, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont des hommes, des femmes, des colonisateurs, des colonisés, des animaux ou des machines, est-ce qu'ils sont en train de se guérir ou de se blesser encore plus, c'est pour surtout mettre en avant les relations qu'il a entre eux et cette sympathie que le trottoir et peut-être la pièce est là pour les transformations plutôt que pour l'identité.
Parce qu'évidemment, il faut parler quand même de la manière dont ils sont vêtus. Je l'ai brièvement dit dans l'introduction, je dis qu'ils avancent avec des collants, mais il faut dire que c'est des collants qui recouvrent dans un premier temps la totalité de leur corps. Quand on connaît votre travail, quand on sait, y compris ici à ce micro, à quel point on a parlé du visage, de la manière de défaire justement l'autorité de vérité du visage, là vous décidez que dans un premier temps, le visage serait invisible. Comment vous avez pris cette décision-là ?
J'ai pris cette décision tout de suite, en fait, quand j'ai pensé au trottoir, parce que, bon, j'avais fait rue avant, et il avait toute cette question de...
Quel titre d'une pièce précédente?
Ouais, voilà, et je me posais la question, est-ce que finalement, dans la rue, on reste toujours anonyme, on reste anonyme par rapport aux caméras de surveillance, mais est-ce que dans la micropolitique, dans les micro-rencontres qu'on peut avoir, dans les moments où on s'écoigne avec les autres, dans la rue, est-ce qu'on est pas justement en train de créer des espaces gigantesques d'exposition les uns vis-à-vis des autres, et donc est-ce qu'on peut retraiter cette question de l'anonymat qui parfois s'est converti dans des énormes espaces d'apparition. Et parce qu'on apparaît, parce qu'il a ses apparitions, il a aussi des assignations, bien sûr, qui vont avec. Comment est-ce qu'on peut le troubler ? Donc, je me suis dit, bon, je vais garder un aspect de l'anonymat avec cette piste de couvrir le corps avec des colons colorés. En même temps, de porter des casques emblématiques, des casques qui vont évoquer certaines normes ou certains métiers et qui vont essayer de construire des archétypes sociaux, comme ça peut aussi arriver pendant le carnaval. Donc il a cette dimension, on va porter la norme, mais on va aussi porter la norme ou porter un type comme on peut porter un masque, mais parfois on va porter tellement que ça va devenir un corps normé, ça va devenir un représentant de la norme. Mais parfois aussi, on va imaginer qu'on porte cette masque comme si on s'adressait à elle plutôt, comme si elle était un autre, une altérité avec laquelle on va diriger un dialogue ou adresser une critique sociale.
Et même pour parfois la dévoyer, la rendre grotesque, la hacker du milieu. J'ai en souvenir comme ça des corps de trottoir qui portent des bombes de cavalier ou des casques qui vont plutôt se rapprocher de l'uniforme militaire ou policier et qui, à un moment donné, dans leur posture, dans leur danse, dans leurs agissements, vont devenir risibles, vont devenir tellement troubles que leur fonction même va être défaite, va être détruite, comme si parfois en incorporant ou en incarnant une force norme, on pouvait la réduire en poussière, quoi. S'amuser tellement avec, rire tellement de ça, que ça va au-delà de s'en moquer. Ça la disperse.
J'aime beaucoup l'idée du collant comme une matière qui est élastique, en fait, qui permet une certaine souplesse. Et je pense qu'il pourra apparaître dans cette manière-là. Il faut jouer un peu avec la souplesse, mais une souplesse qui doit être organisée pour générer aussi une forte détermination. Et donc cette détermination, parfois, elle vient avec les chaussures et avec les casques pour garder cette souplesse qu'il y a dans les couleurs et dans la matière en elle-même. Et cette souplesse, elle vient du fait qu'il va falloir que les interprètes soient tout le temps en train de changer, en train de justement n'est pas se construire en tant que corps, mais en tant que geste provisoire, qui, puisqu'ils sont provisoires, ils vont générer une idée ou une image d'un corps, au décor. Et donc c'est là où on a commencé la création de cité, c'était en train de se dire... Bon, on n'est pas visible, on ne sait pas qui on est, on va partir de cette fiction, mais on a une liste de gestes à faire concernant à des thèmes que nous, on avait évoqués par rapport à l'imaginaire de la ville, à l'imaginaire de l'oppression, à l'imaginaire de la joie, de la fête, de l'enfance, à l'imaginaire du trottoir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à nous dire, bon, ce corps, il va apparaître parce qu'il est capable d'autant de pisser, d'autant de se prostituer, d'autant de se balader ou alors de jouer le policier, et tout le temps en train de varier à chaque 30 secondes.
Le trottoir, pour vous, c'est l'espace de la scène, c'est l'espace qui est à l'intérieur de la tête de tous les interprètes, c'est l'espace qui est un mot comme ça qui vous permet de commencer à travailler. C'est l'espace de quoi? Parce que vous auriez pu aller... Autre part, je veux dire, la rue, en fait, vous restez à cet endroit-là, Volmir Cordero, en allant sur le trottoir. Vous vous déplacez un tout petit peu.
Ouais. En fait, trottoir a commencé par une sorte de résidu qui n'a pas été suffisamment vécu lors de cette précédente création rue, que c'était un duo. Et souvent, je peux commencer une création en prenant un peu la poubelle de la pièce précédente. Et donc, je voyais dans cette rue qui n'avait pas tout à fait épuisé en rapport au vol ou à la prostitution ou à la mendicité ou alors à la surveillance. C'est quand même des thématiques qui m'intéressent beaucoup, tout en gardant un imaginaire, une atmosphère joyeuse. D'ailleurs, je disais souvent aux danseurs, il faut être sur une surface jouissif, où on peut se dire qu'il y a une fête, où on peut danser, où on peut célébrer quelque chose. Mais par contre, au sous-sol, il y a trop d'angoisse. Donc il faut être joyeux, mais en sachant que dans l'entourage, dans l'environnement, il y a plein de menaces qui interdisent l'accomplissement de cette joie. Et c'est dans les tensions qu'il peut avoir entre ces forces contradictoires, qui demeure cette disponibilité au corps à se faire trottoir. Et je pense que ça vient de là, en fait, trottoir comme une sensation, en fait, d'être à la fois autonome, être capable de marcher, de se déplacer, d'être passager, mais en même temps de savoir qu'on peut être mort, on peut se faire tuer, on peut se faire violer ou voler dans cet espace qui est aussi porté par des forces absolument opposantes.
Est-ce que c'est pour ça que quand il y a une joie, elle est toujours éphémère, elle est toujours... contredite, embêtée, ou alors il y a un rire qui arrive et qui fait que on s'inquiète de la joie qu'on vient de vivre ou qu'on vient de voir, Volmir Cordero. Il n'y a jamais de joie qui s'installe dans le trottoir. Il y a une joie globale et on ressort rempli de ça, mais les joies, elles sont très fragiles.
Ouais. Oui, je pense que pour moi, les joies, elles viennent toujours dans des moments absolument imprévisibles et elles durent souvent très très peu. En fait, et je pense que quand je suis en train de créer, j'essaie de chercher toujours cette joie qui peut déclencher une violence, et ensuite on peut rire de cette violence, et cette joie, elle peut s'émanciper de cette violence, mais elle est toujours en lien avec des choses qu'on ne sait pas très bien exactement pourquoi on rit, en fait. J'ai envie d'interroger le rire. De quoi on rit aujourd'hui? De quel genre de blague? De quel genre de situation? À quel moment et comment ce rire il se produit? Je pense qu'il y a trop de rires très jeunes aujourd'hui. Donc interroger cette complexité du rire m'intéresse beaucoup.
C'est d'ailleurs, je disais, il y a une sorte de mystère de connaître l'origine de ce qui les met en mouvement. Souvent, il y a un mystère face au rire. On ne sait jamais exactement de quoi ils rient. Est-ce qu'ils rient vraiment? Est-ce qu'ils se forcent à rire? Est-ce qu'ils rient parce qu'ils écoutent les autres se dévoiler? Est-ce que les autres, d'ailleurs, quand ils parlent, se dévoilent réellement? Ou est-ce qu'ils viennent au micro pour dire des choses qui sont aussi des performances, des jeux, peut-être même des mensonges? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en écoutant la voix de cet interprète, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, j'ai trouvé que tout le temps, on se disait, est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui est dit dans la pièce?
Oui, je pense que c'est très, très bien de garder cette ambivalence, cette complexité dans la réception. Après, évidemment, de l'intérieur du processus, tout ce que je mets là-dedans, c'est pour que ça puisse générer un affect d'enthousiasme, malgré les traversées par des affects destructeurs ou par la tragédie du monde, en fait, par cette situation absolument oppressante qu'on traverse dans les trottoirs sur le trottoir de la ville. Donc, c'est vrai que d'un point de vue très personnel et très intime du processus, j'ai envie de dire oui, il faut faire confiance parce que elle aussi, est, cette voix et ces textes et tout ce qui porte le corps, ils sont composés d'une complexité des rapports qu'il ne faut pas du tout nier, en fait. Ce n'est pas pour essayer de les rendre propres. Justement, c'est pour déprivatiser les corps de leur propriété ou de leur possibilité d'être sobre et sage et tout le temps correct et impossible de commettre des erreurs. Je pense que c'est le contraire. C'est pour honorer des corps qui sont jamais saisissables dans leur purité, parce que cette pureté n'existe pas.
Pour moi, le théâtre, ce n'est pas un terrain isolé et professionnel. Et les processus qui s'accomplissent dans l'art actuel, ce sont les révalorisations radicales. Et c'est l'avant-garde, ces révalorisations radicales qui explosent, qui détruisent, qui semblent absurdes, qui sont ridiculisées, humiliées, interdites. Tous ces processus forment un ensemble d'idées et de faits qui sans cesse renouvellent la conscience de la condition humaine. Et dans le théâtre, il faut connaître ces processus. Et à mon avis, les metteurs en scène et les décorateurs, ils ne connaissent pas ces processus qui sont en général dans l'art. En plus, il faut y participer. C'est quelque chose de plus. Il faut les créer et il faut prendre les risques. Prendre les risques, et ça, je considère comme la chose la plus importante.
Vous acquiescez, c'est une archive de 1972, on entend la voix de ce grand homme de théâtre qui était Tadeusz Kantor. Il dit beaucoup de choses, il dit que le théâtre n'est pas un terrain isolé, pas un terrain professionnel, mais il dit surtout qu'il faut prendre le risque, voire, moi ce que j'entends, il faut prendre part. Et il y a quelque chose comme ça, vous disiez, dans le processus intérieur de création de trottoir, qui doit être enthousiasmant. Et moi, je suis ressortie de cette pièce-là, dans des moments que nous traversons qui sont compliqués politiquement, ou trouver des places justes, ou trouver la possibilité de penser à des endroits justes, ou trouver des bons mots, c'est difficile. Et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'encouragement à prendre part, quelle que soit la manière, mais prendre part. Participer, pour reprendre les mots de Tadeusz Kantor.
Oui, je pense que justement, entre prendre part ou prendre position,
C'est pas pareil,
ouais. Et je pense que dans la position, on peut quand même varier peut-être un peu plus entre les extrêmes. Et du coup, circuler tout le temps, c'est-à-dire expérimenter le maximum de positions. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de faire dans la pièce. C'est cette circulation incessante où le corps, il va jamais adhérer complètement à une position, mais il va expérimenter, et ça va être provisoire. Et pendant ce temps-là provisoire d'ancrage dans une certaine position, il va produire certaines associations qui va se de faire ensuite pour aller vers des nouvelles, et ça va générer des communautés absolument différentes. Et je pense que c'est...
Et provisoire, elles aussi.
Aussi.
Ces communautés.
Oui, c'est cette constante variation. C'est ça que j'ai, quand j'ai dit que la joie peut être un outil d'épanouissement, ou qu'elle peut aider à cette à cette recherche vers la collectivité, c'est parce que c'est là où je crois qu'on peut connaître les ennemis, savoir qu'ils peuvent être des ennemis provisoires, peut-être les manger, ces ennemis, les faire évacuer autrement, et peut-être renouveler ce qu'on appelle nos complices, et tout le temps être dans un sort de voyage, dans une traversée où il va falloir expérimenter des choses qu'on ne pouvait pas penser avant ces rencontres-là.
Il y a une question de tremblement dans la pièce. Là, je parle beaucoup des mots parce que c'est facile de s'accrocher aux mots, notamment à la radio. Mais tout ce qu'on dit là, ça a aussi des traductions extrêmement concrètes dans la manière dont les corps agissent entre eux, se rencontrent, se cognent, etc. Mais bon, il y a aussi des mots qui sont prononcés et parmi lesquels le fait que trembler est un bon signe parce que c'est en tremblant que on est au plus proche du tremblement du monde. Ça va un petit peu dans le même sens de ce que vous disiez, Volmir Cordero. Et d'ailleurs, c'est la continuation à la fois de vos travaux de recherche, à la fois de vos précédentes créations. C'est dans l'impermanence, c'est dans le tremblement qui a pour vous, peut-être pas une juste position, mais une position possible, quoi.
Oui, parce que c'est dans le tremblement où je pense qu'on peut enlever cet aspect naturel, cette volonté de naturaliser certaines normes qui nous servent simplement à inhiber nos puissances de transformation, de révolution, des capacités d'altérer les conventions. Donc c'est parce que ça tremble que les rapports qui sont absolument établis, ils peuvent aussi trembler avec et que du coup on peut commencer à penser autrement.
Et vous dites que c'est une force qui peut aller contre l'impuissance, alors on voit comment ? Par des capacités de mise en mouvement, de joie, de déplacement, mais contre l'exclusion. De quelle manière tout ce qui est déployé là peut aller contre l'exclusion ?
Je pense qu'en restant ensemble, je pense que c'est le geste le plus important de la pièce, c'est un mouvement qui nous conduit pendant tout le long de la pièce, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, on reste ensemble tout le temps, et je pense qu'il a cette idée de rester ensemble et de naviguer sur des positions absolument différentes qui génèrent sur scène des cartes très différentes, des cartes posturales on va dire, et qu'à partir de ces cartes parfois on est absolument les uns contre les autres, on est en train de générer des rapports de force très différents, parfois on va s'embrasser, on va se prendre tous dans les bras, et parfois on va essayer de composer des petits clans pour enlever la vitalité d'un autre. Et c'est dans ces rapports de vitalisation et dévitalisation constante que s'est produit la vie, quoi, la vie qu'on cherche, qui n'est pas une vie stable du tout.
Comment vous avez travaillé ? Ça ressemblait à quoi ? Le moment de création, le moment de répétition, le moment de travail entre vous.
Au tout début, on a composé donc cet imaginaire du trottoir où il avait des verbes, qu'on a des catégories de verbes, d'actions, ou alors de noms comme un jeu d'enfance, une sorte de maladie ou une situation d'émergence ou quel type de drogue on prendra dans la rue, comment on peut se mettre par rapport à un policier qui vient nous aborder sans qu'il ait aucune raison, des situations comme ça qui ensuite sont devenues des gestes. Et puis, il y avait pas mal de petites scénettes, en fait. J'ai travaillé beaucoup avec la construction, genre, il y a un étranger qui débarque en ville, il est accueilli par certains, d'autres ne veulent pas qu'il soit là, il tombe malade, mais il fait semblant de tomber malade, il y a certains qui croient, d'autres qui ne croient pas, et quand il tombe malade, il y a quelqu'un qui essaie de l'assigner, de lui donner un rôle dans le village, donc de le mettre en chapeau pour que ce rôle devienne un rôle incarné. Et quand il incarne ce rôle, il devient quelqu'un d'autre. Donc c'était un peu comme ça, des petites séquences d'action. Et puis on passait quelques temps à improviser, parfois sur 10 minutes. Parfois je donnais la même consigne pour 1 minute. Et pour générer des temporalités aussi différentes. Mais c'était peut-être la grosse première partie avec cet imaginaire de la rue, du trottoir, et puis une autre partie avec ces scénettes, ou alors imaginer un enfant qui est en train de jouer et qui révèle déjà toute sa puissance queer, alors qu'il a une ronde de sécurité. On peut dire que c'est des adultes qui tournent autour et qui essaient de contrôler cette dissidence qu'il propose depuis toute petite. Donc il y a certains qui vont appuyer, d'autres qui vont essayer de contrôler et dire non, il va falloir que tu rentres dans les cadres binaires, attention, il faut qu'on sache si t'es plutôt homme ou plutôt femme, tu peux pas être un intermédiaire de tout ça. Donc voilà, il a eu des contraintes comme ça.
Les problèmes, c'est que nos traditions politiques sont tellement marquées par cette définition nécropolitique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par les rapports entre souveraineté et violence, qu'on a des mal à penser que la souveraineté peut être aussi des côtés de la faiblesse, des côtés de la fragilité. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de faire, y compris avec philosophiquement. C'est-à-dire que pour moi, l'ancrage de ma philosophie est les corps mortel, vulnérable, fragile, et donc forcément tendre. Voilà.
Vous parliez de l'émergence, de situation d'émergence, de transformation, de puissance queer. On entend ici la voix du philosophe Paul B. Preciado, qui était venu d'en parler Temps qui court, notamment évoquer son livre Un appartement sur Uranus. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit là, c'est son rapport à la vulnérabilité et à la tendresse dans à la fois sa philosophie, mais aussi des puissances politiques, quoi. Qu'est-ce que vous faites de la qualité justement de ce corps vulnérable, fragile et donc mortel, Volmir Cordero, dans cette pièce Trottoir?
Ouais, c'est super intéressant parce qu'au départ, la première image que j'avais aux danseurs avant même d'arriver les casques, c'était des enfants. Et des enfants qui pouvaient absolument être capable de basculer d'un coup à la vie adulte. Et c'était ça, le jeu de métamorphose, c'était de passer de tout petit à tout grand, à tout vieux, et puis revenir à la petitesse. Et puis j'ai gardé cette idée des jeux d'enfance pour évoquer une forme de tendresse, justement, pour imaginer quelle est la norme qui est en train de ronder ou qui est en train d'agir sur le corps tendre, parce que cette tendresse, on va dire, elle a d'espace encore en formation, elle a une marge énorme d'accès, parce qu'elle n'est pas encore complètement soumise à la norme, elle n'est pas en train de jongler ou de jouer avec les autorités ou les permissivités.
Dans le meilleur des cas des enfances.
Exactement. Et donc c'était l'intérêt, c'était de justement garder c'est ce que je disais tout à l'heure, cette souplesse qui peut aussi se convertir en tendresse, cette manière d'être tout le temps dans une plasticité ou qui est aussi typique de la pantomime en fait, du genre que je choisis comme un genre gestuel pour évoquer aussi cette hyper-expressivité souvent associée à des comportements marginaux ou des comportements qui sont censés ne pas être très classe, justement, parce qu'ils sont trop expressifs. Et je pense que c'est ces rapports à la souplesse qui peut émerger cette faiblesse, en fait. Cette faiblesse de, justement, on n'est pas cherché à s'identifier. Et dès qu'on refuse l'identité, je pense qu'on tombe dans le terrain de cette difficulté de ne pas être assigné, donc ne pas être reconnaissable, donc de ne pas être lisible et de sortir du cadre des normes qui régulent la visibilité, la reconnaissance d'un corps.
Et ça génère une faiblesse, mais en tout cas dans Trottoir et dans vos autres travaux, Volmir Cordero, vous dites que dans cet endroit-là où on a refusé l'identification, la normativité, la lisibilité, on passe par des moments de faiblesse et de fragilité, mais il y a aussi des forces, et notamment dans l'amour, et notamment dans une forme de tendresse, ou d'amitié, ou de solidarité. Il y a des baisers, il y a des embrassades. Alors oui, il y a des moments de friction et de combat. Mais il y a aussi ça, il y a aussi quelque chose du désir qui donne de la force.
Oui, c'est une tentative. Je pense que pendant toute la pièce, la tentative, c'est de convertir la faiblesse dans une force. Et de se dire, voilà, on est dans une sorte de fête, le sous-sol, il est tendu. Il est angoissant. Nous, on y va quand même, il a quelque chose à faire. À un moment donné, ça va finir. À un moment donné, on va trouver une sorte de déchirure, même si elle est très petite, pour s'armer avec nos poésies, avec nos amours, même contre les politiques des armes, ça c'est aussi important, pour aller faire une sorte de révolution gay qui va sans doute ne pas complètement oublier tout ce qui est l'oppression ou l'humiliation. Ça va nous accompagner parce qu'on est constitué de ça et on sait très bien qu'une fois qu'on a des mémoires, elles sont inscrites et c'est pas si facile de les oublier. Donc comment est-ce qu'on les dépasse tout en sachant qu'elles seront toujours là? Donc c'est des marques qui continuent en nous, mais nous on va essayer de les réécrire avec des affects capables de générer de nouvelles vitalités ou de nouvelles forces de résistance. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Volmir Cordero.
Joue le jeu, bat les cartes, redistribue et distribue. Joue le jeu, bat les cartes, redistribue et distribue. Joue le jeu, bat les cartes, redistribue et distribue. Joue le jeu, bat les cartes, redistribue et distribue. Joue le jeu, bat les cartes, redistribue et distribue. Joue le jeu, bat les cartes, redistribue et distribue.
C'est un autre extrait de Trottoir, Volmir Cordero. On entend aussi la forme chantée, carnavalesque, tambour, batucada et manifestation et slogan. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez présent, y compris dans votre manière d'écrire, de faire des listes, d'utiliser des verbes à l'infinitif, de lancer comme ça des sortes de manifestes, de poèmes agissants, de mantras. Qu'est-ce que vous trouvez comme puissance dans ces formes de langage-là? Ça fait longtemps que vous les utilisez.
Oui, ça fait longtemps et c'est drôle, quand je suis arrivé à Angers pour commencer mon master, c'était la première chose que ma directrice de master me disait, qu'il avait cette puissance manifeste dans l'écriture, mais que je savais pas trop bien la reconnaître. Je pense que quand j'écris ou surtout quand j'écris les textes pour les pièces, c'est justement, c'est une manière de me confronter à cette vulnérabilité que l'écriture pose, en fait, de peut-être ne pas trop savoir ce qu'on est en train d'écrire ou dans quel registre en particulier. Je pense qu'il y a ce jeu, surtout quand je suis ici et je parle dans une langue qui, voilà, n'est pas ma langue maternelle non plus. Donc il y a cette recherche d'une forme de justesse tout le temps, cette chose parfois paranoïaque, c'est-à-dire de presque m'entendre beaucoup pour dans un sort de feedback constant pour voir dans quelle mesure je me fais aussi compréhensible, donc cette disponibilité aussi être de l'autre côté de celui qui m'écoute pour voir si les conditions des paroles et d'écoute sont bonnes, en même temps dans des dérangements linguistiques ou dans des tours de syntaxe qui vont justement produire des ruptures ou ces hiatus des compréhensions qui font que le langage me travaille beaucoup. C'est une fascination que j'ai justement parce que je pense qu'il est peut-être l'endroit le plus fortement fragile de ma constitution.
C'est marrant. C'est marrant parce qu'à vous écouter, on a l'impression que quand vous êtes, je sais pas, où vous écrivez, dans une... devant une table ou au café ou que sais-je, c'est un endroit, quand vous dites fortement fragile, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un endroit qui vous rend vulnérable et en même temps qui vous... Enfin, vous avez quand même décidé de faire une thèse, de la publier, de faire un livre, enfin, c'est quand même pas rien, quoi.
Non, ouais.
Vous êtes danseur chorégraphe et voilà. Et...
Ouais.
Mais vous y allez pas mollo, quoi, sur le langage.
Ouais, pendant longtemps, je me posais la question de pourquoi, en fait, cette volonté d'aller à l'université d'étudier, même si elle était absolument constitutive d'une possibilité d'être artiste, et ça je parlais spécifiquement du contexte brésilien, parce que pour moi c'était toujours très évident que pour être artiste il fallait être à l'université, donc il fallait aussi négocier avec une pensée académique universitaire, même si aujourd'hui tout ça c'est remis en question, mais c'est quelque chose que j'ai pas lâché en arrivant en France et en voyant que c'était possible d'être artiste et d'être justement détaché de l'université. Mais là je parle d'un cadre spécifique, alors je ne veux pas du tout renoncer à la complexité que je reconnais dans l'université ou dans cet espace de production de savoir. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de pouvoir aller dans des adresses absolument différentes et voir comment ça génère des corps et des gestes, des réflexions qui ne sont pas pareils.
Parce qu'arrivé en France et à Angers, vous auriez pu décider d'apprendre la danse, de continuer de vous former, etc., et d'abandonner éventuellement ça. Or non, vous l'avez investi, mais dans votre manière de l'investir, Vous y avez trouvé d'autres choses ou produit d'autres choses?
Ben surtout que j'avais toujours l'idée de retourner au Brésil après ce master. Et donc, retourner au Brésil, ça voulait dire forcément aller dans une carrière universitaire. Et puis voilà, la vie m'a joué aussi des tours qui a fait que voilà, j'ai pu justement trouver une liberté dans la thèse et aussi grâce à la direction d'Isabelle Ginot qui m'a complètement permis de éprouver le langage tel comme il se présente à moi en fait, tel comme je le découvre au moment où je décide d'écrire.
Et tel que vous l'inventez, c'est quand même une thèse qui commence par un mantra, j'en lis un tout petit bout. Oui à l'intensification de l'étranger, non à l'illustration des arguments, non à l'illustration de la pensée, oui à la pensée elle-même, oui à une pratique théorique comme transmutation, oui à la pensée poétique.
Je suis tombé nez à nez avec un parpaing. Le parpaing était par terre, une brique creuse, grise. Et dès que je l'ai vu, dès que j'ai vu ce parpaing, je me suis dit, je vais le soulever, je vais le prendre dans mes bras, je vais le garder avec moi. Mais je le pensais, je vais prendre ce parpaing dans les bras. Et quand je le regardais, il ne se soulevait pas. Quand je le regardais, je me disais, tiens, mais mon regard ne soulève pas ce parpaing. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais vraiment, je l'avais vraiment dans la tête, le fait que ce parpaing, je devrais le prendre dans mes bras et le garder. Et en m'imaginant comme ça, prendre le parpaing dans mes bras, je me disais, bon, une fois que tu prends le parpaing dans tes bras, tu l'as soulevé avec tes mains, tu l'as dans les bras, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que je m'imaginais déjà, avec le parpaing dans les bras, un parpaing donc lourd, une grosse brique grise, creuse, mais lourde, dans les bras, je l'aurais soulevé avec les mains, je me serais penché, je l'aurais prise contre moi, et je l'aurais soulevé, je l'aurais dans mes bras, je la garderais sur moi, et une fois que je l'aurais sur moi, je ne saurais pas quoi en faire. C'est ça le problème, c'est que je m'imaginais déjà l'avoir soulevé et l'avoir prise dans mes bras, mais je ne savais pas quoi en faire une fois que je l'avais sur moi. Donc je m'imaginais très bien, même immédiatement, dès que j'ai vu le parpaing par terre, je me suis dit, je vais le prendre dans mes bras. Il n'y a qu'une chose à faire, si je vois un parpaing par terre, je le prends, je le soulève. Alors, je le soulève en me penchant et en le prenant dans mes mains, parce que simplement par le regard, même en le regardant attentivement, il ne se soulevait pas. C'est-à-dire que j'avais pas un regard souleveur. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais le prendre dans mes bras, mais mon regard à lui tout seul ne soulevait rien, n'arrivait pas à soulever le parpaing. Alors, je l'imaginais, plutôt que de le regarder et de me dire que mon regard allait le ramener vers moi, je m'imaginais déjà me penchant, je m'imaginais déjà l'avoir dans mes bras, l'avoir dans mes mains, le prendre, le ramasser, le porter un peu vers le haut et le prendre sur moi et l'avoir dans les bras. Et une fois que je l'avais dans les bras, je ne savais plus quoi en faire. Donc, je restais là avec le parpaing sur moi, dans ma tête, puisque je m'imaginais avoir pris le parpaing dans mes bras et je ne savais pas quoi en faire, et pourtant il était lourd, mais je ne savais pas pourquoi j'avais pris un parpaing dans mes bras, parce que je n'avais aucune raison, je n'étais pas en train de bâtir une maison ou de faire un mur, donc je n'avais pas de raison de prendre un parpaing dans mes bras. Mais c'est simplement d'être tombé nez à nez avec un parpaing par terre qui m'a donné l'idée tout de suite quand je l'ai vu. Je me suis dit, ce parpaing par terre, il faut que je le prenne dans mes bras. Parce qu'il faut que je le porte, il faut que je le soulève, il faut que je le tienne avec moi. Alors, un parpaing par terre tout seul n'est pas confus, lui. Il n'a pas de trouble. Il est tout seul par terre et il se tient bien et il tient le coup. Et moi, de mon côté, le voyant par terre seul, je me suis dit, il faut que je le mette dans mes bras, il faut que je le prenne sur moi. Et de là est née une sorte de confusion. J'étais un peu confusionné de vouloir, d'avoir envie d'avoir besoin de le porter, ce parpaing, d'avoir besoin de le prendre dans mes bras, d'avoir envie de le soulever de par terre et de le garder dans mes bras. Et je voulais absolument le prendre dans mes bras et le soulever. Pourtant, il n'avait rien fait, il n'avait pas bougé d'un millimètre, il n'était pas confus, et moi j'étais tout confus devant le parpaing, en me disant, je vais le prendre, je m'imaginais tout de suite, j'avais plein d'idées en tête, je me disais, ce parpaing est tout seul par terre, moi je vais le prendre dans mes bras, je vais le porter, je sais pas ce que je vais en faire. Et je m'imaginais très bien avec cette idée, je ne sais pas ce que je vais faire de ce parpaing dans mes bras, je ne vais ni le poser à droite ou à gauche, ni faire un mur, ni de dérange personne. Il est par terre, il est seul, il ne bouge pas, il est gris, il est creux et il n'embête personne. Et moi, de le voir, tout de suite, j'ai eu envie de le mettre dans mes bras et de le porter, c'est-à-dire de faire l'exercice physique, de me pencher et de le mettre sur moi et de le tenir et pesant, il est pesant, et de le tenir dans mes bras et de le porter. Donc je le portais déjà dans l'imagination. Et je ne savais toujours pas quoi en faire dans mes bras. Donc je faisais rien, j'avais le parpaing dans mes bras, et je me disais, ce parpaing aurait dû rester tout seul par terre. Mais il a fallu que je vienne, que je le rencontre, que je tombe nez à nez avec un parpaing, et que j'ai eu envie de le porter. Parce que d'être tombé nez à nez avec un parpaing, ça m'a tout de suite donné envie de le porter dans mes bras. Donc je reste là, les bras ballants. Je regarde le parpaing et je me rends compte que mon regard ne le soulève pas. Et j'imagine tout de suite que je veux le porter et que si je le porte, je vais rester avec un parpaing sur les bras.
C'est la voix de Christophe Tarkos, c'est le parpaing, et c'est tiré de l'enregistré qui était paru aux éditions POL avec une grande partie de ses œuvres et un disque avec certains enregistrements. On décide de vous faire entendre ça, Volmir Cordero, pour faire suite à ce petit bout de mantra, thèse, début, manifeste de votre texte Ex Corpo qui en appelle à la pensée poétique. Ici, on peut considérer qu'il y a une sorte de déploiement comme ça d'une pensée poétique. Qu'est-ce que vous appelez quand vous dites oui à une pensée poétique ?
J'ai dit à cette capacité d'intensifier des affects, de générer une espèce de vitamine, comme dit d'ailleurs Guattari dans une citation que je prends, serait bien de recommander de la poésie comme on fait avec des vitamines, c'est-à-dire de pouvoir s'y nourrir de cet espace d'imagination qui autorise des mines d'or qu'on a en nous-mêmes, qu'on a dans nos réservoirs, et qu'on utilise tellement peu. Je pense que cette poésie, c'est la chose qui me permet de pouvoir explorer justement ces tremblements dont on parlait tout à l'heure.
Ça veut dire que vous en lisez, ça veut dire que vous en lisez avec les interprètes avec qui vous travaillez, ça veut dire que vous en avez lu et que c'est en vous, et ça existe comment cette vitamine-là dans votre travail et dans votre vie, Volmir Cordero ?
Oui, c'est clair que je pars pas dans un processus de création sans rassembler un peu de poésie et de partager avec les interprètes, et dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un problème, d'aller chercher des poètes, ou alors justement de jouer avec la langue tout le temps, c'est-à-dire aussi de produire de la poésie, de produire des rimes, de produire des espaces d'irrévérence en fait dans le langage normatisé ou dans le langage qui est censé être plus pragmatique.
Parce que par exemple, c'est pas grand-chose cette chanson de danse en milieu de pièce où on entend une transe de marche et très peu de temps après une tranche de Mars. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Oui. Ça me rend hyper joyeuse. J'ai envie de courir sur la scène et de danser aussi parce que une transe de marche et une tranche de Mars. Juste pour ça.
Ouais. Je pense que ça, c'est tout à fait l'espace que j'essaie de générer qui permet que Anne Sanogo, au moment où elle est en train de jouer avec la base du texte que je lui ai donné, ça lui permet d'inventer cette phrase avec son imaginaire de Mars, le bout de chocolat. là ou la planète et de pouvoir justement produire tout de suite une rupture dans la gravité qui peut avoir une transe des marches et de pouvoir donc jouer et mettre deux trois sens l'un à côté de l'autre et faire cette association qui rend l'énoncé drôle ou plus distant. Je pense que aller chercher ce rire du public m'intéresse beaucoup de compter pour qu'il puisse avoir plein d'entrées en fait dans le jeu.
On entendait aussi dans la voix de Tarkos quelque chose qui a vraiment à voir avec la puissance de l'imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que vous explorez beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive au réel? Comment est-ce qu'on arrive à des figures du réel? Comment est-ce qu'on arrive à des possibilités de vérité par la fiction ou par l'imaginaire? Et ce que dit, ou ce que fait plutôt Tarkos dans le parpaing, c'est d'écrire, essayer de dire la puissance de l'imaginaire, de prendre un parpaing dans les bras, et tout le poème, c'est cet imaginaire-là jusqu'à ne pas le faire, en fait. Jusqu'à faire exister l'imaginaire de ce que ça aurait été de prendre un parpaing dans les bras, mais en fait, de jamais le prendre, et entre guillemets, ça suffit. Cet imaginaire ou cette fiction, le fait de se raconter des histoires, ça a quoi comme place dans votre travail chorégraphique ou dans votre travail général?
Je pense que la chose que j'identifie chez Tarkos et qui peut peut-être s'associer à d'autres moments dans mes créations, c'est cette difficulté de regarder ce qui nous traverse. Je pense que là, le parpaing, il est dur à regarder. Il est difficile dans le sens qu'il est précieux, ce regard. Parce que, justement, tout ce qu'il évoque à l'intérieur, comment il fait ruminer cette intériorité et vers quoi elle peut s'extérioriser, c'est tout le chemin qu'on doit faire. Et je pense que quand on est en création, quand je me sens dans un état créateur, c'est tout le temps se confronter à pourquoi je suis en train de penser à cette chose-là, pourquoi je m'intéresse à des pratiques qui peuvent se réapproprier de l'oppression ou de la norme ou des modalités d'humiliation pour en faire une source d'émancipation. Pourquoi ce genre de pensée m'arrive? D'où est-ce que ça vient? Interroger cette généalogie des interrogations qui parfois sont pas posées dans une rationalité objective, mais sont des ressentis qui vont au fur et à mesure s'objectifier. Donc je pense que
et c'est... vous remontez tout le temps le fil. Vous cherchez toujours l'origine de l'association d'idées, la survenue de cette image, la survenue de cet affect.
Je pense que je suis très autoréflexif dans ces sens-là. J'ai besoin de tout le temps faire le retracer, justement, retracer ce fil pour comprendre un peu comment la pensée s'organise et qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que je mets à la poubelle, qu'est-ce que je mets en suspension. Je pense que je suis toujours en train d'observer comment j'observe, en fait.
Vous auriez beaucoup de choses à dire aux gens qui considèrent que faire cette recherche-là entrave la spontanéité, la joie et l'énergie pure. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais à trop réfléchir, à trop remonter le film, on n'y va pas. »
Non, parce que c'est des... Non, je pense que c'est des conceptions, des réflexions. C'est parce qu'on est absolument absorbé par cette idée que réfléchir, c'est d'un coup durcir le corps, durcir la mentalité, rentrer dans un cadre, emboîter tout ce qui est l'instinct ou la sauvagerie. Je pense pas. Je pense que justement, réfléchir, c'est accéder à la pensée poétique. C'est la rendre féconde dans le sens où elle peut troubler toute la routine des stigmatisations ou toute la manière de concevoir la pensée qui parfois vient intimider justement l'acte de penser. Je pense non que penser, c'est justement faire confiance à ce que le corps pense et pour reprendre l'idée très belle de Barthes et que parfois, non, le corps n'a pas les mêmes idées que nous-mêmes.
Les êtres parlants sont d'abord des êtres qui racontent un petit peu leur aventure intellectuelle, une aventure en face d'un texte, une aventure en face d'un spectacle, une aventure en face de quelqu'un pour des gens qui auront à le traduire, c'est-à-dire qu'on est... La parole n'est pas une chose qui s'impose. La parole n'est pas une chose qui veut faire effet en disant, c'est vrai, ce que je dis est vrai. Et elle ne fait pas effet de cette façon-là, effectivement. On sait à quel point, par exemple, les écrivains, les artistes, tous, ils créent leur dispositif et ils voudraient qu'on ressente ça, quoi. Mais c'est jamais ça qu'on ressent. C'est autre chose parce que le spectateur, le lecteur, l'auditeur va faire justement sa contre-traduction et par conséquent réécrire d'une certaine façon ce qu'il a entendu ou recomposer ce qui refigurait ce qu'il a eu devant lui. Et bon, je crois que c'est important. Donc ça ne veut pas dire il n'y a pas de vérité. Ça veut dire que la vérité se passe toujours par des fictions. Des fictions, ça ne veut pas dire des choses imaginées. Des fictions, ça veut dire une certaine une certaine construction du rapport entre ce qui est perçu et ce qu'on peut en penser. Bon, ça renvoie à ce qu'on disait l'autre jour sur le partage du sensible. Le partage du sensible, c'est toujours un rapport entre sens et sens, quoi. Et bon, le consensus, c'est le fait que ce qu'on voit a immédiatement un sens, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction ? Que construire une fiction, c'est réaménager le rapport entre le sens et le sens, réaménager le rapport entre ce qui vous est donné, à ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous entendez, et le sens que vous en faites. C'est ça le travail de la fiction. Et en ce sens, la fiction n'est pas l'opposé de la vérité, mais l'instrument de la vérité.
Ah, il rebondit toujours d'un mot à l'autre, presque. Je disais à Lise-Marie Barré en cellule de montage quand on écoutait cet article. Archive presque par sonorité, quoi, Jacques Rancière. Ici, c'est une archive de 2011 dans les entretiens à voix nue qu'il avait accordé à France Culture, Volmir Cordero. Il y a beaucoup de choses, par conséquent, dans cette archive-là. Est-ce que je vous laisse le choix de commenter un petit bout de ce qui vous inspire ?
Je pense que c'est surtout la manière dont j'entends, c'est comment imaginer que quand on voit quelque chose ou quand on est en train de réfléchir, il n'y a pas... comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans le piège de vouloir trouver le réel, le fameux réel, que serait un réel qui va du coup nier justement sa part de fiction et qui va vouloir s'imposer comme vérité. Je pense que ce qui est intéressant là, dans ce que j'entends, c'est... Comment est-ce que l'art vivant, la danse, c'est que je crois à fond, est capable justement d'autoriser cette puissance inventive chez les spectateurs, de pouvoir construire sa fiction tout en gardant cette réserve qu'elle doit rester une fiction, qu'elle doit jamais s'imposer comme une vérité ou comme une valeur absolue. Et c'est pour ça que je crois vraiment au mouvement, parce que le mouvement, il a cette capacité de s'installer, de s'effacer et de se faire oublier pour ensuite produire une mémoire qui va peut-être tromper l'expérience qu'elle a eue au moment où elle a rencontré avec ces mouvements.
Mais ce qui est un véritable positionnement dans le monde, enfin ce qui est une véritable manière d'être au monde, Volmir Cordero, c'est pas que valable pour le travail. Vous l'avez découvert quand, ça ? Vous avez découvert quand que le mouvement, ce serait votre manière de faire avec le monde, de produire des fictions pour les abandonner, de faire avec une expérience et une autre qui la désavoue et la déjoue?
Je pense que j'ai prouvé ça très petit quand j'ai dû fuir le regard justement surveillant de mon père qui comprenait déjà mon attirance, je sais pas si homosexuelle, mais mon apparition troublante puisque queer. Et du coup, j'ai commencé à trouver des manières de le calmer à la maison, de genre l'assurer, genre allez-y, tu peux rester calme, que je peux entretenir une certaine apparence sans que ça te gêne, et en même temps, dès quand il n'est pas là, pouvoir libérer toute ma puissance d'invention de mon corps qui était complètement autorisée par ma mère, ou alors dans l'école, dans les activités justement artistiques, mais en même temps, il avait toute la police des regards à l'école qui essayait justement de faire contrôle sur ses corps. Je pense que c'est arrivé à l'âge de 3-4 ans, justement, quand j'ai compris la puissance de certaines paroles discriminatoires qui essayaient de maîtriser mon mouvement ou de l'encadrer.
C'est pour ça qu'une des choses qu'on entend beaucoup, c'est abandonner la police du regard dans le trottoir, essayer de faire dans cette pièce-là, pas sans la police du regard, parce qu'elle existe toujours, cette police-là, et vous la faites exister avec les personnes avec qui vous faites trottoir, mais comment dire ? J'ai même pas envie de dire c'est soustraire à la police du regard, parce que j'ai même pas l'impression que vous faites ça. J'ai même pas l'impression que vous vous soustrayez à la police du regard, mais vous... Qu'est-ce que vous faites?
Je pense qu'on essaie de trouver une manière de surtout ne pas mimer cette police. C'est-à-dire qu'elle est... on dit ça, elle est contagieuse. Mmh. Elle est capable de nous séduire. Parce que ça nous permet d'exercer un petit pouvoir quand on peut contrôler quelqu'un. Parce que le regard, évidemment, c'est pas tout le monde qui l'a. On peut tous voir des yeux, on peut tous voir. Mais regarder, c'est justement activer cette capacité critique vis-à-vis du monde. Et donc, activer une critique de surveillance, une critique méchante, on va dire, qui est capable d'arrêter l'autre, d'immobiliser l'autre. Je pense que ça peut nous séduire. Je pense qu'on est dans un moment où la manque de pudeur, ou l'abus d'information, ou la nécessité de manifester des opinions tout le temps à droite et à gauche, ça peut faire qu'on se sente capable de jouer la police les uns avec les autres. Donc je pense qu'on est, quand on dit ça et pendant la pièce, on est en train de dire attention, parce que c'est facilement désirable, cette position. Attention pour ne pas tomber dans le piège.
D'ailleurs, vous vous entendez entendez, c'est-à-dire en plus loin, tendez tout le temps des pièges, en vous mettant des shorts les uns aux autres, en vous mettant des casques, etc. Vous faites comme une sorte d'office de tentation, quoi. Vous tendez des pièges aux autres. Voir comment tu te débrouilles si toi aussi tu te laisses tenter à vouloir que l'autre il ait cette position, avoir un jugement sur lui, avoir une manière de contrôler ses gestes ou ses dires. Vous essayez ça aussi pour voir comment ça séduit.
Tout à fait. C'est comme si l'autre parfois était une extension de soi-même et on était absolument intime à aller assigner l'autre avec un casque ou avec un bout de tissu et donc imposer un comportement à l'autre et voir comment l'autre réagit. Donc évidemment, il a cette tentation constante dans la pièce pour voir aussi comment est-ce qu'on refuse à ça. Et je pense que c'est là où se joue ce mimétisme d'une société qui essaye d'assigner l'autre et parfois de composer qui est le bandit, qui est le policier, pour donc pouvoir bien sûr produire des manières d'oppression qui vont facilement tomber contre les pauvres, contre les femmes, contre les queers, contre les noirs et voilà quoi.
Ou contre les gens avec qui on n'est pas d'accord. Il me semble qu'il y a un truc intéressant qui se dit du début à la pièce et que vous avez dit tout à l'heure. C'est une manière de déjouer la police du regard, c'est d'être ensemble.
Oui, c'est d'être ensemble et de toujours rappeler cette conscience de l'oppression et de rappeler les comportements qui peuvent être assimilés avec beaucoup de d'aisance et qu'alors on commence à les reproduire. Et on va dire, mais ça c'est moi, je suis comme ça, je peux pas changer. Voilà quoi, je pense que dès qu'on répète cette phrase, dès qu'on dit, mais moi c'est moi, je suis comme ça, je pense que là il a un énorme souci.
Trottoir, c'est le titre de cette pièce, Volmir Cordero. Elle se jouera le 19 mars au Dancing CDN de Dijon et le 24 mars à l'Espace Pluriel, c'est une scène conventionnée à Pau. Et on pourra aussi voir Rue les 7 et 8 mars prochains. On pourra vous écouter en conférence, en workshop. On mettra tout ça sur le site internet de l'émission. Et je rappelle le titre de votre livre, Ex Corpo. C'est publié au Carnet, Centre National de la Danse. Merci beaucoup, Volmir
Merci.
Cordero.
Je doute de moi. Pourtant, il n'y a pas de raison de douter. Tout le monde aime les gâteaux.
Bah oui. À la prise de son, c'était Alain Joubert. Ce soir, à la réalisation, Lise Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Lucie Riandé, Luc Vauvier et Julie Ascal. Par les temps qui courent, c'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast sur l'application Radio France. Dans un instant, 22h, c'est le journal.
Pourtant, il n'y a pas de raison de douter. Tout le monde aime les gâteaux. Il y a un petit chien que j'adore.
Mais le petit chien, ça se trouve, il m'aime pas.
Pourtant, il n'y a pas de raison de douter. Tout le monde aime les enfants de sa meilleure amie. Tout le monde aime les enfants de sa meilleure amie. Mais je n'ai pas assez d'argent. J'ai entendu dire qu'il fallait 1 million. Bien sûr, il me faudrait aussi un équipement spécial. Mais je n'ai pas assez confiance en moi pour obtenir cet équipement. Du coup, aucune entreprise, et même le gouvernement, personne ne me fait confiance. Personne ne me fait confiance, car moi-même, je ne me fais pas confiance. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre d'être là. C'est fini. Je vais utiliser une méthode. C'est un nouveau.